Bonjour, donc je m'appelle Thierry Colac, je suis le président fondateur de l'association Aid for Free, qui s'écrit ED4FREE, hein, le site étant dans le aidforfree.org. Je vais vous faire une petite formation sur le produit phare d'Aid for Free, qui est l'Aidbox. L'Aidbox, c'est un mini serveur éducatif offline. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un mini serveur éducatif offline. Ce qui constitue le premier chapitre de cette formation, je précise parce que cet enregistrement est destiné à être travaillé par une IA pour en faire un support de formation. Donc chapitre 1, c'est quoi un mini serveur éducatif offline? Comme son nom l'indique, c'est un serveur, c'est-à-dire que c'est un système informatique sur lequel des terminaux, des smartphones, des PC peuvent se connecter pour accéder à un service. Par exemple, il y a des sites de vente par correspondance sont des serveurs. Donc là, ça va être un serveur qui va servir à distribuer des contenus éducatifs. Mini, bah, c'est comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il est petit. En l'occurrence, il est gros comme une grosse boîte d'allumettes, comme un paquet de cigarettes. Éducatif, bah, c'est simplement son usage, hein, c'est-à-dire que ce mini serveur va servir à l'éducation et à la formation en général. Et offline, c'est ça qui est important. Ça veut dire que ce serveur n'aura pas besoin d'accès à Internet. C'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que les utilisateurs, donc puisque c'est éducatif, les apprenants, les élèves, vont se connecter à ce serveur directement avec leur smartphone ou leur PC ou leur tablette en Wi-Fi, donc gratuitement, sans passer par Internet. C'est ça qui est important. Ça va être particulièrement utile pour les pays en développement, où les accès à Internet sont parfois pas disponibles en province ou même en périphérie des grandes villes. Et lorsqu'ils sont disponibles, ils sont souvent trop chers, hein, donc pas abordables pour des étudiants. Donc, hein, pour résumer, c'est un petit serveur informatique dédié à la distribution de contenu éducatif, destiné à des écoles, des lycées, des universités, des pays en développement, alors notamment en Afrique, puisque Aid for Free travaille en Afrique, pour rendre accessibles des contenus en Afrique, là où justement, je dirais, ce sera utile, puisque se trouve que dans ces pays en développement, parfois, on manque souvent de livres, de manuels scolaires, voire d'enseignants. Hein, donc, il peut avoir une très forte valeur ajoutée. Voilà pour la présentation du serveur éducatif offline. Chapitre 2 du cours. Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par le matériel. Ceux d'Aid for Free. Alors je dis ceux d'Aid for Free parce qu'on n'est pas les seuls à en faire, évidemment. D'ailleurs, on n'a rien inventé, je reconnais. Ceux d'Aid for Free sont basés sur des cartes mères qui ont été lancées il y a une dizaine d'années, qui s'appellent des Raspberry Pi. Je précise que ces cartes mères, enfin que le Raspberry Pi n'est qu'une carte mère. Hein. Souvent, il y a un amalgame entre Raspberry et le serveur complet. Non, le Raspberry, ce n'est que la carte mère. C'est un peu comme si on faisait la confusion entre une carte mère Asus, hein, et un PC HP qui contient une carte mère Asus. Donc, ils sont basés sur des cartes mères Raspberry Pi. Bon, je reviens sur le fait qu'il n'y a pas que Aid for Free qui en fait. Aid for Free a été créé il y a 9 ans. À l'époque, je travaillais chez Orange. Et en fait, ce genre de mini-serveur était distribué par la Fondation Orange. J'ai trouvé ça absolument génial, franchement. Et quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu utile, hein, je veux dire, peut-être plus utile que ce que je fais chez Orange d'ailleurs, je me suis dit, je vais diffuser très largement ce type de solution. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres associations dans le monde et même des entreprises commerciales qui distribuent ces mini-serveurs éducatifs offline. Je reviens sur le matériel. Donc, ils sont basés sur une carte mère Raspberry Pi. La carte mère, on la met dans un boîtier. Ça fait un deuxième composant matériel. Carte mère, boîtier. Ce boîtier, il y a une alimentation électrique. Troisième composant matériel. Cette alimentation a le même standard que pour un smartphone. Hein, c'est-à-dire que c'est de l'USB-C. Hein. À la différence près qu'elle est plus puissante, hein, puisque comme c'est un serveur, potentiellement on va supporter 20 connexions simultanées, donc il faut que ça tourne bien. Donc ce sera précisément un chargeur de smartphone. En général, il fait du 1 ampère sur 5 volts, ou 1,5 ampère dans les meilleurs des cas sur 5 volts. Sur un Raspberry Pi, il faut du 3 ampères. Donc c'est le troisième composant. Comme je l'ai indiqué en préambule, ce serveur va créer un réseau, un hotspot Wi-Fi. Alors le Raspberry Pi inclut déjà un chipset qui permet de créer un hotspot Wi-Fi. Par contre, il n'est pas suffisamment performant, donc on rajoute un quatrième composant matériel qui est un dongle Wi-Fi, qui sera plus puissant que le Wi-Fi qui est à l'intérieur du Raspberry Pi, mais on aurait très bien pu s'en passer en dégradant un peu la performance. Donc pour l'instant, ça fait quatre composants, donc la carte mère Raspberry Pi, le boîtier, l'alimentation et le dongle. Le cinquième et dernier composant, c'est le stockage. En général, sur un serveur, on a un disque dur pour le stockage. Pour l'Headbox, ce n'est pas un disque dur, c'est une carte SD. On met une carte SD de 256 Go, hein, qui est vraiment beaucoup, c'est très confortable. Et c'est ça qui va constituer le stockage du serveur. Ça, c'était donc pour les composants matériels. Maintenant, donc on va dire en chapitre 2.2, je vais vous parler des composants logiciels. Alors, le logiciel, c'est une solution de quelques logiciels qui m'ont paru utiles pour faire le job, hein, comme on dit. Alors, je dis m'ont paru utiles parce que, quand je dis moi, c'est parce que, comme dans toutes les bonnes associations qui se respectent, le président fait tout, et donc c'est moi qui ai fait l'Headbox, mais que je continue à la faire évoluer. Alors, le logiciel, déjà, ce qui est quand même important à savoir, c'est que ce qu'on appelle le système d'exploitation, c'est-à-dire le logiciel de base, c'est exactement le même que sur les très gros serveurs, hein, dont j'ai dit que le serveur était mini, il est petit. Par contre, fonctionnellement, il fait 100% de ce que font les gros serveurs, les très gros serveurs. En l'occurrence, le système d'exploitation, c'est un serveur Linux, hein, qu'on va trouver dans 90% des serveurs du monde entier, les autres étant Microsoft. Et plus précisément, j'ai choisi celui qu'on a trouvé historiquement sur Raspberry Pi. Donc, c'est une distribution Linux qu'on appelle Debian, et j'en suis à la version Debian 12. Donc, ça, c'est le système d'exploitation. Sur ce système d'exploitation, il y a des couches logicielles et les plus importantes, hein, qui ne vont pas vous être utiles à vous, mais pour la culture, c'est intéressant de le savoir. On va trouver du PHP, qui est le 1 des langages. On va trouver MySQL, la base de données. Et on va trouver le serveur HTTP qui s'appelle Nginx. Et en fait, et comme on a un vrai système Linux, on peut mettre en réalité tous les logiciels qu'on veut. C'est ça qui est important. Si quelqu'un me dit je veux installer mon logiciel qui tourne sur un langage pas très courant, c'est pas très grave, on sait l'installer. Voilà pour les couches logicielles. Ensuite, vraiment les applications qui seront vraiment utiles pour la fonctionnalité. Premièrement, il y a le serveur Moodle. Moodle, c'est ce qu'on appelle un learning management system. C'est vraiment un environnement logiciel qui a été créé pour faire du e-learning, pour faire des MOOC, pour faire des choses très 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 élaborées. C'est hyper puissant. Sur l'Headbox, on va utiliser quelques pourcents, peut-être 5% de ce qu'il sait faire, pas plus. J'ai préféré utiliser Moodle à des serveurs à web comme WordPress, hein, parce que Moodle, il est très très bien structuré. Donc il va permettre de gérer de façon très professionnelle, très très structurée, des contenus, tous les contenus que l'on veut. Hein, donc Moodle, il va me servir à gérer l'interface, la page d'accueil, la navigation dans la page d'accueil, et à donner accès aux différents contenus. Les contenus, ça pourrait être des fichiers PDF, bêtement, des vidéos, mais aussi des choses beaucoup plus élaborées, hein, des formations scénarisées, etc., etc. Sachant que, bien évidemment, puisque c'est Moodle, je sais héberger un MOOC complet sur l'Headbox, et c'est aussi l'avantage. Donc, on a Moodle, il tourne sur PHP. Le deuxième logiciel très important, c'est Nextcloud. Nextcloud, c'est un drive, hein, c'est pareil que Google Drive ou OneDrive. À la différence que c'est un logiciel libre qui tourne également sur PHP et donc qui est installé dans l'Headbox et qui va être utilisé pour stocker les contenus. J'ai préféré distinguer la présentation des contenus par Moodle du stockage des contenus dans Nextcloud. Je précise que c'est important d'avoir un vrai stockage. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre des vrais MOOC ou des vraies formations en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand elles sont sur Internet, les vidéos sont stockées en général sur YouTube ou équivalent. Là, comme on est en offline, on n'aura pas Internet, hein, donc on n'a pas YouTube. Et donc, il faudra rapatrier dans l'Headbox tous les contenus qu'on veut présenter, alors notamment les vidéos, mais aussi les PDF et éventuellement d'autres choses. Moodle, au lieu d'aller chercher les vidéos sur YouTube, il ira les chercher dans Nextcloud. Donc deuxième logiciel, Nextcloud. Troisième logiciel qu'on va trouver dans beaucoup d'autres mini-serveurs éducatifs offline, et qui d'ailleurs était celui, le logiciel phare de celui dont j'ai parlé de la Fondation Orange, c'est Kiwix. Kiwix, c'est quelque chose d'absolument génial qui a été fait par des Suisses. Vraiment, encore bravo à Kiwix. Ils ont rendu très facile le fait d'installer des grosses médiathèques telles que Wikipédia. Ils ont commencé avec Wikipédia, puis Wikibook, puis Wikiuniversité. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de contenus que l'on peut très facilement installer, en ce qui me concerne, dans un environnement Raspberry Pi, mais ça peut s'installer également sur un tas d'autres, de tout type de technologies. Donc, grâce à Kiwix, sur les Zbox, on va avoir Wikipédia, Wikibook et un tas d'autres wikis en fonction de ce qui nous intéresse. Donc, voilà pour les principaux logiciels. Donc, Moodle, Nextcloud, Kiwix. Parfois, je mets un quatrième logiciel qui s'appelle Colibri, qui vient de l'association Learning Equality. C'est un peu l'équivalent de Kiwix, mais pour d'autres contenus. Alors, il permet notamment d'avoir quelque chose qui est très très utile pour l'éducation en lycée, qui est la Khan Academy. La Khan Academy tourne sur Colibri, donc je le mets aussi. Et selon quand les gens sont intéressés par Khan Academy, je mets Colibri aussi. Donc voilà pour la partie logicielle. Je vais maintenant passer au chapitre 3. Comment on l'utilise? Alors, pour l'utilisation, en fait, c'est vraiment très simple, hein, et c'est conçu pour être très simple, hein, parce que c'est un peu d'ailleurs l'ADN de Dead for Free, c'est de faire des choses qui sont a priori quand même vachement sophistiquées. Je vous parle de Ledbox, c'est un produit Ledbox, mais pour info, il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus sophistiqués techniquement, comme Ledphone ou Leduphone, mais en masquant la complexité pour que ce soit très simple d'utilisation, hein, ce qui est le cas de tous les produits Dead for Free. Alors pour Ledbox, c'est hyper simple. Comment on va mettre en route Ledbox? On va brancher l'alimentation sur le secteur. On va brancher l'autre bout du câble USB-C sur Ledbox. On va appuyer sur le bouton on-off, donc ou power de Ledbox. On attend à peu près 2 minutes. Hein, je vous ai dit que c'était un serveur Linux. Donc les 2 minutes, c'est le temps que le serveur Linux démarre. On voit le démarrage du serveur Linux parce que les petites lumières qui sont devant Ledbox, elles s'allument en rouge pour dire que c'est allumé et la lumière verte clignote pour dire que c'est en train de travailler. Au bout de 2 minutes, le démarrage sera terminé. On va voir un réseau Wi-Fi qui va apparaître et depuis son smartphone ou depuis son PC, on verra ce réseau. Il va s'appeler en général headbox.org, hein, qui est le nom Wi-Fi par défaut. Je dis en général parce que parfois, dans certains pays, ils aiment bien avoir non pas un .org, mais un point qui est avec l'extension de leur pays. Hein. Par exemple, en Mauritanie, j'ai mis un point MR et au Tchad, j'avais mis un point TD. Mais sinon, c'est .org. Donc, on se connecte à ce réseau Wi-Fi qui s'appelle headbox.org avec son terminal. Puis on lance le navigateur, Chrome ou Firefox ou Edge. Et sur le terminal, on va taper le même. Pour que ce soit simple, justement, on tape la même chose que le nom du réseau Wi-Fi. Donc on va taper headbox.org dans la barre de navigation du terminal. Et là, on va aller sur la page d'accueil du serveur qui est sur Ledbox. Donc, je rappelle, donc ce serveur, en l'occurrence, ce sera la page d'accueil de Moodle, mais peu importe. Hein, là, on fait abstraction de la technique. Je me connecte au réseau Wi-Fi headbox.org. Dans le navigateur de la barre d'adresse, je tape headbox.org. Je me retrouve sur la page d'accueil. Et là, en principe, la page d'accueil est suffisamment claire. Elle a été faite pour être claire pour ceux à qui ça s'adresse. Et donc, on va aller sur les contenus, on va dire, tiens, mathématiques, ou alors Wikipédia, ou alors etc. etc. Voilà pour l'utilisation par un enseignant. Donc c'est hyper simple. Je fais toutes les formations Headbox, je les fais en ligne. Enfin, toutes les formations à l'utilisation de l'Headbox, je les fais en ligne par WhatsApp, plus éventuellement, je dis bien éventuellement parce que parfois la visio n'est même pas toujours indispensable. Et la formation dure un quart d'heure. Hein, je leur dis, vous démarrez la box, ok, 2 minutes après c'est fait. Vous voyez le réseau Wi-Fi, oui, ok, vous vous connectez, d'accord, et vous tapez l'URL et c'est fini. La formation, c'est ça. Maintenant, en chapitre 4 de cette petite formation, je vais quand même vous parler des fonctions d'administration, parce que c'est important. Alors, comme je l'ai dit, sur l'Edbox, il y a un disque, l'équivalent d'un disque dur, c'est une carte SD, avec des contenus. Mais bien évidemment, ce qui va être important, c'est que les contenus, ils évoluent. C'est-à-dire que pendant toute la durée de vie d'utilisation de l'Edbox, en plusieurs années, il y a des enseignants qui vont créer des contenus, il y a des partenaires qui vont en amener, et il faut les installer. Pour faire vivre l'Edbox, il y a des fonctions d'administration. Alors, comment ça se... Déjà, pour le coup, la formation, elle est un peu plus longue. La formation administrateur, en général, c'est 2 heures. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on va se connecter à l'Edbox comme on l'a vu précédemment. La différence par rapport à l'utilisateur, c'est que l'administrateur, ou le gestionnaire plutôt, va taper un login password, un login et mot de passe, et il va avoir accès à des fonctionnalités pour faire quoi? Pour ajouter des contenus. Hein, donc depuis son PC, il va faire des uploads. Hein, donc il va glisser, déposer un répertoire complet de PDF, des vidéos. Il va les ajouter à l'Edbox, de sorte à ce qu'ensuite les utilisateurs qui vont aller sur l'Edbox les verront. Alors, ça, c'est des fonctions auxquelles a accès l'administrateur. Il peut également changer l'arborescence, hein, puisqu'il va dire, tiens, on a créé une filière informatique qui n'existait pas avant. Donc je crée un répertoire informatique et je fais un drag and drop, un glisser-déposer de tous mes fichiers PDF et vidéos, etc. Donc ça, c'est il y a la notion d'administrateur qui vient s'ajouter. C'est préférable qu'il y ait un administrateur pour une netbox, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable d'ajouter des contenus. Ce n'est pas indispensable. Hein, ce que je dis régulièrement pendant les formations, c'est que donc moi j'ai plus de 60 ans. Et quand j'étais adolescent, donc c'était années 70-80, les parents investissaient dans une bibliothèque papier. Donc enfin, ça fait, soit c'était un gros livre, soit c'était 10 livres, etc. Et les livres, on les mettait pas à jour on mettait pas à jour les livres tous les ans. C'est pas comme ça que ça marchait. Éventuellement, on rachetait un volume au bout de 3-4 ans. Avec l'internet, on a pris l'habitude de mettre à jour les contenus, mais en réalité, c'est pas indispensable. L'Edbox, c'est une médiathèque, c'est une grosse bibliothèque numérique, et si elle n'est pas mise à jour pendant 2-3 ans, c'est pas dramatique pour autant. L'alternative d'ailleurs à la mise à jour, comme je l'ai indiqué, par un gestionnaire qui va mettre à jour lui-même ses fichiers, c'est de dire, comme je l'aurais fait avec une bibliothèque, en fait, avec une bibliothèque papier, c'est de dire, je mets à jour le stockage. Hein, donc, je vous ai indiqué que que le stockage, c'était pas un disque dur, c'était une carte SD. Donc, ce que l'on peut faire au bout d'un an ou deux, c'est dire, hop, renvoyez-moi votre carte SD, je vais réécrire dessus la toute dernière version de l'Edbox qui va inclure tous les contenus. Et ça, franchement, je pense que c'est une bonne solution lorsqu'on n'a pas des gens capables qui n'ont pas la compétence un peu technique. C'est pas très technique, mais quand même, il faut avoir l'habitude. Lorsqu'on n'a pas des profils qui seraient capables de le faire eux-mêmes un par un. Donc, simplement, on leur dit tous les ans, soit on passe les voir dans le lycée, on prend leur carte SD et on écrit, avec un PC, on écrit la nouvelle configuration. Ça prend 1 heure, pas plus, hein. Donc, je sors la carte SD de l'Edbox, je la mets dans un lecteur de carte SD que je branche sur mon PC. Là, je clique sur mise à jour. 1 heure après, c'est fait, je la remets dans l'Edbox et toutes les nouveautés sont dans l'Edbox. Donc voilà pour la partie administration. Donc, écoutez, merci d'avoir écouté et lu ce cours, hein, puisque je crois que mon ami Claude.ai va me faire une version PDF et une version HTML et on va faire une version podcast. Et j'ai hâte de voir le résultat. À bientôt.